Bonjour à tous. À la veille d'un 21e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes, rendez-vous à partir de 12h55 avec la politiste Vanessa Codaccioni, auteure de Répression, l'État face aux contestations politiques, publiée chez Textuel, précédée à l'été dernier d'une réflexion sur la légitime défense au CNRS Édition. Mais d'abord, le bonheur ce midi est dans l'assiette avec la chef étoilée Hélène Darroze. Elle publie Joya au Cherche Midi qui rassemble ses meilleures recettes. Propriétaire de 3 restaurants parisiens, membre du jury de l'émission Top Chef tous les mercredis sur M6, celle pour qui cuisiner c'est vivre et vivre c'est cuisiner, nous parle aujourd'hui de ses plaisirs. En dialogue avec Hervé Aubron, rédacteur en chef du nouveau magazine littéraire consacré ce mois-ci à Nietzsche et à l'intelligence artificielle, ce monde à réinventer. À écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
À partir de lundi, la grande table passe à l'heure européenne avec 10 grandes voix de la culture et des idées. Régis Debré, Roger Scruton, Elisabeth Roudinesco, Anne-Thérèse de Kersmaecker, Javier Cercas, Christophe Warlikowski ou encore Elena Janecek, la romancière italienne qui est d'ailleurs de passage à Paris dans le cadre du festival Italissimo qui a commencé mercredi et se poursuit jusqu'à lundi. Au programme, des rencontres, des lectures et même une discussion dimanche 7 en soirée à la Maison de la Poésie à Paris avec le jeune chef autodidacte Thomas Mélili et le philosophe Emanuele Coccia. Bonjour Hélène Darroze.
Bonjour.
Le thème de cette rencontre italienne dimanche soir, ce sera « Nous ne sommes pas ce que nous mangeons ». Ah bon ?
Nous ne sommes pas ce que nous mangeons. Pourtant, je trouve quand même que, que ce qu'on mange veut beaucoup dire de, veut dire beaucoup de nous et comment on le mange en plus. Hein. Je pense que moi le manger et puis derrière, ben, cuisiner aussi, c'est un acte de partage, c'est un acte de don de soi et ça en dit beaucoup sur l'être humain.
Alors si on inverse la proposition et qu'on la retourne vers vous, je suis ce que je mange, qui êtes-vous ?
Je sais pas, je pense que je suis quelqu'un qui est assez authentique, qui travaille avec beaucoup de respect, à la fois le respect de ceux qui viennent à ma table, le respect de ceux qui travaillent avec moi, et puis le respect de ceux qui me donnent les moyens de faire ma cuisine, c'est-à-dire mes producteurs, et à travers ça, donc le respect du produit. Quelqu'un qui est assez donc dans l'authenticité, dans la vérité. Et puis parce que je cuisine et je mange des choses qui ont des goûts francs, des choses qui sont qui parlent, qui sont reconnaissables, voilà. Et puis après, je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt dans le don de soi, dans la générosité, parce que c'est comme ça que j'aime manger et cuisiner. Voilà. Et
bonjour Hervé Aubron.
Bonjour.
Vous signez ce mois-ci pour le nouveau magazine littéraire un papier sur les reconnaissances du ventre. Alors est-ce que vous êtes d'abord vous une plume gastronome?
Oui, je suis gastronome. Alors le problème, justement, je parle un peu de la critique gastronomique parce que ce qui m'intéressait notamment, on pourra en parler plus avant, mais ce qui m'intéresse, c'est que oui, j'essaie de défendre un parti pris selon lequel Top Chef est peut-être l'émission culturelle la plus populaire en France. Et ce qui m'intéresse, c'est que la gastronomie, précisément, c'est-à-dire les savoirs et les discours liés au manger, ça apparaît précisément en même temps que ce qu'on appelle l'esthétique, c'est-à-dire la science du beau, de l'art, des sensations, des perceptions. Je veux dire, la gastronomie, c'est un socle, finalement, pour le discours critique, en effet. Mais le problème, c'est que c'est très difficile d'écrire sur la nourriture. Et que donc, on risque souvent d'en être au je ne sais quoi, l'ineffable, etc. Donc c'est un peu à double tranchant. Mais c'est pour moi un socle essentiel, c'est le début de toute critique, d'un certain point de vue, la gastronomie.
C'est difficile d'écrire, c'est vrai, sur la gastronomie, sur la nourriture.
En tous les cas, juger ce que l'on mange, c'est très subjectif. Mm-hmm. Là, vraiment, on est dans le subjectif absolu et on ne juge pas une assiette. Peut-être qu'on la juge un jour comme ça et le lendemain autrement parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses avant. Moi, je dis toujours, quoi, hein, quelqu'un qui vient manger à nos tables, si avant il s'est engueulé, ou dans son travail, ou dans sa vie personnelle, ou voilà, il n'a pas du tout la même approche que s'il vient et qu'il est bien et que tout va bien, etc. C'est vraiment, on est tellement, plus que n'importe quel autre artisanat, on va dire, on est tellement dans le subjectif quand il s'agit de critique que voilà, c'est assez difficile d'écrire dessus. Oui, je veux bien le comprendre, de prendre des parties, voilà. Oui, enfin, c'est assez difficile. Après, c'est pas difficile pour certains, hein, ça c'est clair.
Et d'ailleurs, Joya, que vous publiez aujourd'hui, est un livre de recettes. Donc, vous écrivez en racontant comment se fait aussi un plat, un mets.
Oui.
Mais, comme souvent, ça passe aussi par de très belles images, des photographies de vos plats. Et là, on voit aussi que la gastronomie passe par le goût, par le palais, mais aussi par la vue, par les yeux.
Cette
dimension esthétique, elle est importante.
Oui, je crois que les cinq sens sont sollicités, hein. Ça, c'est clair, hein. C'est quelque chose, en tous les cas, oui, qui touche à tous les niveaux. Et le visuel, en effet, en est beaucoup. Mais voilà, la cuisine par excellence, pour moi, de toute façon, ça passe par l'émotion. Le cuisinier, c'est les émotions qui va, enfin, à mon avis, hein, il va chercher en lui des émotions qu'il a envie de retranscrire dans une assiette. On est vraiment dans cette dimension-là.
Alors, la cuisine est-elle un art comme les autres? La réponse de Claude Chabrol, extrait de Que la bête meure.
Eh bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire?
Je vais bouillir 4 heures.
Ah ben, 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois. Quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit?
Oui.
Vous êtes une fine gueule, vous?
Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr.
Oui. Eh ben, vous me comprenez, alors. Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher? 100 000 balles. Et la cuisine, hein, c'est le seul art qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais.
Jean-Yann, en 69, dans le film de Claude Chabrol, je sais pas si on l'aurait invité avec plaisir à sa table, il a quand même un point de vue très critique, mais il dit « La cuisine, c'est le seul art qui ne mente pas ». Est-ce que vous êtes d'accord?
Alors,
avec ça,
moi, Hélène Darroze ? Moi, j'ai un très gros problème à dire que la cuisine est un art. Je préfère parler d'artisanat. Voilà. Donc, je pense qu'on est des artisans. Je pense qu'on a une matière première entre les mains, qu'on la cuisine, qu'on la façonne, qu'on l'associe à d'autres matières premières, à d'autres éléments, avec certaines techniques ou pas. Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup de mal pour dire que la cuisine est un art. Alors, il y a certainement certains chefs qui sont des artistes. Ça, je le conteste pas. Mais après, pour vraiment dire que voilà. Alors après, où est la limite aussi entre l'art et l'artisanat? C'est toute une question, hein, ou entre l'artisanat et l'art plutôt, c'est toute une question. Parlons peut-être d'art artisanal, je sais pas. Voilà.
Mais vous pouvez quand même peut-être concéder que vous composez parfois vos assiettes comme un peintre peut composer ses tableaux.
Oui, bien sûr, c'est évident, mais je sais pas, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce qualificatif pour la cuisine. Voilà.
Une question d'Hervé Aubron.
Oui, sur cette histoire justement, c'est ça qui est intéressant, j'ai l'impression, sur le fait, c'est toujours l'éternel débat, est-ce que c'est un art, un artisanat, un métier d'art, etc. Mais c'est pour ça, je crois que c'est éminemment culturel, en effet, parce que il y a peut-être toute la culture qui devient gastronomie, je dirais, parce que tout est culturel maintenant, tout est designé, tout est... Et donc ce qui est intéressant, c'est de revenir finalement au basique. Quand je disais que la gastronomie était au début du discours sur l'art, au 18e, à la fin du 18e, c'est que précisément... L'un des gros débats, c'était « mais alors, c'est de l'art ou pas ?» Et finalement, c'est une façon de revenir aux fondamentaux et de réfléchir effectivement aux sensations, aux émotions, comme vous dites, etc., aux perceptions.
Peut-être qu'on peut laisser arbitrer l'un de vos maîtres en la matière, puisqu'il vous a formé et suivi pendant longtemps, Alain Ducasse.
C'est de l'art appliqué. On ne peut interpréter que ce que la nature nous a donné, que ce que l'éleveur, le ramasseur de champignons, le cultivateur, le paysan, le charcutier nous a proposé. On va s'attacher à préserver la sœur originelle de l'ingrédient que le paysan nous a fait. Il nous a fait une carotte juteuse. Pourquoi transformer son goût? Il faut au contraire le préserver, il faut le sublimer. Il faut l'assembler justement, l'accompagner parfaitement avec une viande qui sera elle-même parfaitement maturée, parfaitement assaisonnée, parfaitement cuite, avec le légume qui va l'accompagner et le lien qui est souvent ce qui distingue la cuisine française, qui est souvent une sauce ou un jus. Donc ça s'arrête là. c'est-à-dire la cuisine en deux mots, c'est qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je sais, c'est ce que je fais, et ça s'applique partout dans le monde.
À oui, répliquer. C'est un peu mon discours. On voit bien qu'il m'a éduquée, entre guillemets.
Votre mantra ou votre devise, Hélène Darroze, cuisiner c'est vivre et vivre c'est cuisiner. Ouais. Se nourrir, manger, ça c'est, c'est évidemment vital, on doit manger.
Oui,
et
alors
pourquoi cuisiner le serait aussi.
Voilà, parce que moi c'est ma façon de vivre, parce que c'est ma vie, et c'est lié à ma vie. Je veux dire, moi ma cuisine elle me raconte, quoi. Et voilà, et puis moi je peux aller encore plus loin. Quand je vais pas bien, par exemple, quand je n'ai pas le moral, quand j'ai des petits coups de blues, etc., que ça peut arriver à tout le monde, c'est dans la cuisine que je me réfugie, ou dans la création avec un papier, un crayon, en me disant qu'est-ce que j'ai envie de... Voilà, ou dans l'écriture quand j'écris des recettes, ou tout simplement, je prends une marmite et je cuisine pour mes proches, quoi. Donc, voilà, ça fait partie intégrante de ma vie, quoi. C'est mon moteur, quoi. Et au-delà de ça, quand justement on trahit ma cuisine, quand je sens des gens qui adhèrent moins à ce que je fais, etc. Pour moi, c'est comme des trahisons, quoi. Voilà.
Et comment c'est devenu un ressort vital pour vous?
Je sais pas, là, moi je suis née dedans. C'est dans mon ADN. Je suis la quatrième génération d'une famille de cuisiniers. Je suis née dans une casserole. J'ai grandi dans une casserole, dans une cuisine, dans les jupons de mon grand-père, de ma grand-mère, de mon papa, de mes oncles. Et voilà, c'est vraiment inscrit en moi. Je crois que je suis née avec ça.
C'était à Mont-de-Marsan, dans les Landes, quand vous dites « je suis née dans cette casserole ». La notion de terroir, elle reste importante pour vous, aujourd'hui, Hélène Darroze,
oui,
même si elle est un peu connotée, parfois, vieille France, voire réactionnaire, voire archaïque.
À condition que cette notion de terroir ne soit qu'une base et qu'on la fasse évoluer, qu'on la fasse fleurir par des rencontres, par des voyages, par une ouverture à d'autres cultures, à d'autres mondes, à d'autres régions, qui la fasse évoluer, quoi. En tous les cas, à mon niveau. Je me régalerai toujours d'un cassoulet, je me régalerai toujours d'une choucroute. Il n'y a pas de problème. Mais après, quand on arrive à un certain niveau, ces plats-là, il faut les faire évoluer. Et c'est du plaisir de s'en servir comme base. Hein. Aujourd'hui, on travaille avec mes équipes. Là, il y a deux jours, on travaillait sur un plat fabuleux du Pays Basque qui s'appelle le merlu cochkera, donc qui est dans mes racines, parce que j'ai beaucoup de sang basque. Donc c'est un plat de saison avec des asperges, des petits pois, des œufs, parce qu'en ce moment, les œufs, c'est là où ils ont le jaune le plus goûteux, le plus jaune. Voilà. Notre travail aujourd'hui, c'est ce plat-là. Comment on s'en inspire pour en faire quelque chose, et on le travaille avec des produits qu'on a connus ailleurs, avec des associations qui seraient sans doute perturbantes pour un Basque, ou qui le seront. Mais ce plat-là de terroir, oui, il y a une logique, il a été fait parce que en cette saison-là, parce qu'il y a une logique, etc. Mais comment on se sert de cette logique pour le faire évoluer et puis pour donner du plaisir autrement.
Alors on peut jouer de ces croisements, de ces réinventions aussi. Si on prend votre cocotte de merlu en ligne de Saint-Jean-de-Luz à l'espagnol, sauce chimichurri.
Oui.
Quel voyage traverse ce plat?
Oui, alors sur les recettes de Joya, donc qui sont des recettes du nouveau restaurant qu'on a ouvert il y a quelques mois. Là, on est dans une cuisine. On n'est pas dans de la gastronomie, quoi. On n'est pas dans une cuisine étoilée. On est dans une cuisine de confort, je dirais, une cuisine qui parle à tout le monde. Mon idée, c'était ça. C'était, voilà, venez chez moi. Venez dans ce restaurant. Ça ressemble à chez moi et vous allez manger ce que je vous ferai à manger chez moi, quoi. Ça, c'était vraiment l'idée. Donc, ça reste pour moi ce qu'on appelle ça peut relever du bistrot, plutôt, ou d'une cuisine familiale, d'une cuisine de femme un peu familiale et de partage. Et ça, la cocotte de merlu, c'est la tête de merlu avec tout le collier qui est pour moi la meilleure partie du merlu et que j'adore servir à ceux qui sont à ma table. Voilà. Et puis la sauce chimichurri, c'est en effet une inspiration mexicaine et c'est marié deux univers et voilà. Mais ça reste une cuisine quand même très 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 accessible.
Alors faire entrer l'Espagne ou le Mexique et ces influences-là dans un plat, pour vous, ce n'est pas une manière d'égratigner cette culture du terroir qu'on évoquait juste avant.
Je pense pas. Je pense que c'est au contraire, c'est la mettre en lumière autrement, c'est la faire évoluer. C'est sûr que si je regarde ce que cuisinait mon grand-père dans les années 70. Il y a eu beaucoup d'évolutions parce que oui, on s'est ouvert au monde parce qu'il y a la mondialisation et que voilà et qu'on voyage beaucoup plus donc lui il comprendrait certainement pas toutes ces choses là. C'est une fois mon père m'avait dit ton grand-père il va se retourner dans sa tombe mais en te voyant cuisiner. Donc certainement il y a c'est chahutant quoi pour ceux qui sont vraiment dans le terroir et la tradition. Mais moi à mon avis en tout cas c'est il y a aucune tradition là-dedans. Il y a juste une évolution et plutôt intéressante.
En 2010, l'UNESCO a classé le repas gastronomique des Français comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, l'exception culturelle française. Même s'il y a réinvention, s'il y a voyage, s'il y a mélange, partage, cette exception culturelle française, elle subsiste encore pour vous, Hélène Darroze ?
En tous les cas, moi, ce que je constate, c'est que tous les grands chefs du monde entier, qu'ils soient scandinaves, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient américains, tous ces grands chefs qui ont créé des tendances, ils sont toujours venus s'inspirer de ce qu'est la cuisine française. Ils la prennent toujours comme référence. Donc, il y a une raison à ça, quoi.
Je vous propose d'écouter les mots du philosophe Michel Serres sur l'importance de manger pour vivre, mais aussi de cuisiner. Qu'est-ce qu'on met dedans, de nous ?
Le premier texte de l'humanité que nous avons en commun ne fait que répéter le verbe manger sans arrêt. C'est quand même tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas ? Tout à fait extraordinaire. Oublions la faute, oublions les premiers parents, oublions le paradis, et entendons les phrases répétées, n'est-ce pas, dans ce premier texte, où le moment du paradis où il y a manger, manger, manger. Bon à manger, pas bon à manger, tu dois manger, tu ne dois pas manger, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que là, on voit très bien presque l'origine profonde de la culture, c'est-à-dire que manger n'est pas seulement un acte biologique, dont on parlait tout à l'heure, non seulement un acte politique, si vous voulez, ou éthique, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi un acte sacré.
Un acte sacré, nous dit le philosophe Michel Serres, Hélène Darroze. C'est aussi une affaire de croyance pour vous, la gastronomie, la cuisine ?
De croyance, je crois en ce que je fais, ça c'est sûr. C'est marrant parce que je m'étais jamais fait cette réflexion. C'est intéressant, hein. Mais en tous les cas, c'est tellement fédérateur, quoi. C'est évident que ça, enfin oui, c'est présent dans toutes les religions, c'est présent dans toutes les cultures, dans toutes les races, c'est un acte fédérateur et c'est un acte essentiel. Quand on se pose la question, oui, en effet, c'est incontournable en tout cas.
Fédérateur à la table, mais aussi dans le poste de télévision. Invité jusqu'à midi et demi, la cuisinière chef étoilé Hélène Darroze est à nos côtés à l'occasion de la parution de son nouveau livre de recettes Joya. Si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. Accompagné de Hervé Aubron du nouveau magazine littéraire France Culture et les Midi 20.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Seule femme à faire partie du jury, vous êtes repartie pour une 5e saison, l'émission Top Chef qui fête ses 10 ans cette année. Gros, gros succès télé. Hervé Aubron, dans le numéro du mois d'avril du nouveau magazine littéraire, vous interrogez cette institution qui parle au ventre de 3 millions de spectateurs en moyenne chaque semaine. Au ventre, à moins que, en tout cas, pas à nos papilles, puisque contrairement à d'autres émissions, concours télé, de danse ou de chant, les spectateurs ne peuvent pas juger, puisqu'ils ne peuvent pas goûter. Donc c'est le jury qui s'en charge, Hervé Aubron. Le concours culinaire apparaît comme l'une des rares espaces médiatiques où la mythologie du chef est non seulement épargnée, mais révérée. Il y a une rigueur pour vous toute militaire, c'est ce que vous avez observé, Hervé Aubron, dans ce programme.
L'autre point de départ du papier, c'était effectivement ce qui m'intéressait, c'était qu'à l'heure où, en France... par les temps qui courent, les figures d'autorité, de chef, etc., sont quand même contestées dans tous les domaines. Ce qui m'intéresse, c'est que tout d'un coup, il y a un jury de chefs, en effet, qui va décider, trancher sur des plats, alors même que les spectateurs donc ne peuvent pas toucher à cette évaluation fondamentale, contrairement aux autres émissions où il y a des jurys, où là le public peut voter. Et du coup, il y a une espèce là d'étonnant consensus, parce qu'on voit bien que dans tous les domaines, voilà, gilets jaunes, etc., la figure d'autorité, la verticalité, etc., est plutôt contestée. Et j'ai l'impression que il y a un étonnant, une étonnante exception avec la cuisine. C'est presque un domaine là où là il y a une autorité en effet encore consensuelle, relativement consensuelle. Après sur l'aspect militaire, c'est pas une nouveauté. On parle pas de brigade par hasard. Escoffier, enfin c'est la base de la gastronomie moderne. Et d'ailleurs la figure de l'autorité, oui, elle peut être questionnée. Mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est effectivement qu'il y ait autant de Français qui que peut-être le cuisinier, la dernière figure d'autorité respectée.
Et qui adhère à ce spectacle, Hélène Darroze.
Ouais, ben moi, je me réjouis hein, du succès de Top Chef, hein, parce que oui, les audiences sont super bonnes. Alors après, en replay, c'est aussi super bon, etc. Donc c'est génial.
Mais qu'est-ce que ça dit pour vous?
Bah, ça dit que pour moi, une fois de plus, la cuisine est quand même vecteur. Et ça, il faut que nous, cuisiniers, on en prenne de plus en plus conscience et qu'on s'en serve de plus en plus sur des sujets qui, à mon avis, sont majeurs. Mais la cuisine est vraiment un vecteur de partage, de valeurs qui sont, voilà, dans la générosité, le don de soi, le respect, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, parfois, on en manque en France, quoi. Et sur des problèmes, par exemple, comme l'environnement, comme l'intégration des réfugiés, sur des problèmes aussi cruciaux de notre société, je pense qu'on peut avoir un rôle à jouer. Et je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience. Moi, en tout cas, je suis en train d'en prendre conscience, il me semble. Et que justement, on se mette un peu au service de ces valeurs-là pour jouer sur des problèmes qui sont aussi graves que ceux que je viens de citer, il me semble.
Même si vous n'êtes pas adepte de l'autorité, Hélène Darroze, et vous l'avez raconté en cuisine, vous préférez appelle Hélène plutôt que chef.
On m'appelle Hélène, on m'appelle pas chef. Et quand j'entends le mot brigade, voilà, on est une équipe. J'ai des collaborateurs et on travaille ensemble. Alors certes, je les inspire, ça c'est clair, mais j'ai pas besoin de me faire appeler chef. J'ai pas besoin de crier. J'ai pas besoin d'une hiérarchie militaire pour faire que ça qu'on travaille bien ensemble, qu'on soit heureux ensemble. Et voilà, ça, c'est ma vision des choses et voilà, c'est...
Est-ce que néanmoins,
il y a que sur Top Chef qu'on m'appelle chef, je le dis. Hein, mais...
Est-ce que néanmoins, ça ne fonctionnerait pas votre cuisine sans un minimum de discipline?
Mais attention, c'est sûr qu'il faut de la discipline, c'est sûr qu'il faut de la rigueur, c'est sûr qu'il faut des leaders et puis voilà. Mais ça n'empêche que on n'a pas besoin de caractériser comme ça notre métier par des mots aussi forts et.
Et masculin. Ça reste quand même un enjeu dans l'émission. Il reste une surreprésentation un peu masculine quand même.
Mais ça, c'est des candidats comme du jury.
Oui, mais c'est normal parce que ça reflète juste la situation. Arrêtez de notre métier.
Plat féminin, accessoirement. La catégorie du plat féminin.
C'est quoi un plat féminin?
Ça revient souvent.
Sais pas. Oui, c'est vrai.
C'est un repas mignon. C'est un plat, c'est délicat, sous-entendu.
Ce qui est élégant, qui est raffiné, qui est voilà.
Et en face, il y a le plat gourmand, sous-entendu pour homme, un peu sans chichi.
C'est vrai. Vous avez raison. On y va trop facilement.
Donc la salade César, c'est un plat féminin, et le boudin noir, c'est un plat masculin.
Voilà, on peut dire ça. Mais je voudrais juste insister aussi sur autre chose, parce que ce qui, je crois, fait aussi le succès de l'émission, et ce pourquoi je dis aussi que d'autres émissions culturelles pourraient s'en inspirer. Moi, je suis pas dingue de tout le dressage de l'émission. Il y a des choses dans l'émission, les voix off, etc. Je suis pas dingue de ça.
De tout le montage, quoi. Vous voulez dire
le dressage,
les voix off, je vais vous avouer, c'est pas ce qui est le plus sympa à faire dans
l'émission. J'imagine. Et puis bon, là,
c'est clair.
La rhétorique du winner chez les candidats, etc. En revanche, ce qui est très fort dans l'émission, c'est ça qui passionne, je crois, les gens, c'est de voir l'invention, peut-être la création, au travail. C'est-à-dire que c'est quand même une des rares émissions où on voit ce que c'est l'angoisse et l'excitation de quelqu'un qui, en gros, a trois ingrédients. Je disais l'angoisse de l'assiette blanche, pourrait-on dire, et qui doit inventer
quelque chose en temps imparti.
À partir de là. C'est quand même une des rares émissions. Et moi, je rêverais de Top Peintre ou peut-être pas un top, mais je trouve quand même que y aurait quelque chose à inventer dans les autres domaines de ce point de vue-là, parce que l'émission culturelle, c'est souvent un talk-show qui arrive toujours dans l'après-coup. après le match où on demande à un artiste de commenter a posteriori ce qu'il a fait.
De être dans le faire et dans la création.
Et je trouve passionnant de voir quelqu'un travailler et à l'œuvre, quoi. Voilà. Donc je crois que là, il y a quelque chose, évidemment, qui participe de la beauté de l'émission.
Et là, moi, je veux rendre hommage aux candidats parce que des fois, cette émission est critiquée par certains de mes confrères et je trouve à tort et injustement, quoi. Parce que, sincèrement, quoi. Faire ce que les candidats font, parce que voilà, il y a un temps imparti et qu'on, c'est très très rare quand on leur donne quelques minutes en plus, et si on les donne, bien sûr, on les donne à tout le monde, mais voilà quoi, c'est pas, voilà, comme vous dites, créer un plat, le cuisiner, le rendre vivant à partir de produits qu'on découvre. Alors certes, ils ont les thèmes quelques jours avant, ils savent qu'il va y avoir le thème du dessert aux légumes, voilà, ils savent les thèmes génériques, on va dire, mais ça n'empêche qu'ils savent pas ce qu'ils ont dans le garde-manger, et ça, ils le découvrent devant les caméras, et il faut qu'ils réagissent et qu'ils se remettent en question et dans des laps de temps qui sont quand même assez courts voilà quoi. Moi je rends hommage à ces gamins, plus ou moins gamins d'ailleurs, mais il faut le faire à ceux qui font quoi. C'est dans les conditions d'un concours, parce qu'à la fin ils sont jugés, il y en a un qui part quoi, hein, donc avec le stress que ça implique.
Est-ce que vous pensez que de l'autre côté du poste ça incite d'un côté les gens à mieux manger, de l'autre est-ce que vous pensez que ça suscite aussi des vocations?
J'en suis persuadée. Alors là, aux deux questions, parce qu'il y en a deux en une là, je réponds oui, quoi. Hein. Je pense que ça a fait premièrement prendre conscience du bien manger, puis donner envie de créer autour d'ingrédients, etc. Ça, c'est sûr. Et je pense que en effet, notre métier, il faut le dire. Hein, moi, quand j'annonçais que je voulais faire que cuisinière chez moi, c'était presque la catastrophe, parce que j'étais plutôt bonne élève et c'est vrai que chez moi, c'était plus parce que j'étais une femme, hein, je pense, mais c'est vrai que notre métier c'était considéré comme une voie de garage, il faut le dire. Moi, la menace pour mon frère, c'était attention, si jamais tu travailles pas bien à l'école, tu pourtant on est dans une famille de cuisiniers, hein, mais si jamais tu travailles pas bien à l'école, tu vas en apprentissage de cuisine. Donc c'était vraiment la voie de garage. Aujourd'hui, je pense que on fait ce métier-là parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on l'a un peu anobli, et entre autres par la médiatisation et la télévision.
On terminera peut-être juste sur la question aussi des révolutions dans la gastronomie actuelle, crise financière, crise climatique. Est-ce qu'elles sont restées, ces deux crises, aux portes de votre cuisine?
Moi, ça, sur la crise climatique, en tout cas, ça n'a pas trop changé ma vie, parce que, ça change ma vie dans, comme je le disais tout à l'heure, dans le sens où je pense que il faut qu'aujourd'hui, on parle, nous, les chefs, un peu plus. On a une responsabilité là.
Vous faites
vraiment
encore assez peu quand même,
oui,
dans l'émission, un peu trop peu.
Dans l'émission, oui, mais bien sûr, vous avez entièrement raison.
Mais pas dans ces cuisines.
Non, mais voilà, moi, si vous voulez, j'ai toujours travaillé avec les saisons, j'ai toujours travaillé avec une pêche responsable, avec une chasse responsable. Voilà, j'ai tout. Mais ça, c'est très sud-ouest, c'est dans ma culture, hein, mais je pense qu'on a des mots à dire là-dessus.
Oui, et sur la question du coût aussi.
Et sur la question du coût économique,
des produits,
bien sûr.
Notamment. Merci beaucoup à vous, Hélène Darroze. Merci, Hervé Aubron. Le nouveau magazine littéraire est en kiosque avec une consacrée. Et donc à Nietzsche. Et Joya, votre livre, Hélène Darroze, est à trouver dans toutes les bonnes librairies. Si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. Édité au Cherche Midi, un mot encore juste pour vous indiquer le festival pluridisciplinaire. Il y a de la musique, il y a du théâtre, mais il y a aussi de la gastronomie. C'est le festival Les Toqués de Mythos. C'est du 29 mars au 7 avril à Rennes, dans les jardins du Tabor de Rennes.